Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre prière. Tout simplement parce que nous avons visité la maison de retraite le vendredi dernier. Nous étions 8 personnes. Et ça s'est très très bien passé. Les gens ont apprécié. Et comme d'habitude, ça fait 4e fois que nous y sommes rendus. Et c'était très édifiant pour les gens qui étaient présents. Même on a prié avec eux. Enfin, pas officiellement. Certains, quand ils ont raconté leur histoire, leurs problèmes, certains ont prié avec eux. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Dans un établissement laïque, accueillir déjà, nous, un groupe chrétien, pour parler de Jésus, c'était incroyable. Et en plus, j'ai commencé en disant, mais... Attendez, est-ce que mes notes sont bien? C'est pas ça. Je sais plus. ce que je disais, c'est que je leur ai demandé, qu'est-ce que Noël vous fait penser? Et puis les gens ont dit, oui, le repas de Noël, la fête, ben oui, on fête, les retrouvailles familiales. Et j'attendais en fait la réponse, la naissance de Jésus, et personne ne disait la naissance de Jésus. Donc j'ai dit, écoutez, nous on est là cet après-midi pour fêter la naissance de Jésus. Et là, j'ai vu le visage qui changeait. C'est vrai que, ah oui, c'est vrai. Comme si ils avaient complètement oublié. Hein? Mais c'est vrai, le monde oublie pourquoi on fête Noël. Et là, maintenant, les 4 bougies sont allumées. Ce matin, on est là aussi pour célébrer la naissance de Jésus, mais en même temps, c'est un dimanche spécial où nous voulons aussi penser à les églises persécutées. Et tout à l'heure, nous avons vu déjà pendant la présidence avec Rachida qui nous a bien parlé de cette persécution dès la naissance de Jésus. Vous savez, les rois mages étaient venus pour célébrer, pour honorer ce Messie tant attendu depuis tant d'années. Le Seigneur avait déjà prédit la naissance de Jésus. Et puis les rois mages, avec l'Esprit de Dieu, qu'ils ont été inspirés, ils ont vu, ils ont été attirés, et ils ont cherché. Et cependant, l'arrivée de Jésus n'était pas la bienvenue pour, tout à l'heure tu as rappelé, Hérode. Parce qu'il se méfiait de sa place, enfin il se méfiait de cet enfant, le roi des rois qui était né. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis perdu dans mes notes. Pourquoi je dis ça? Ah oui, pour dire que aujourd'hui on va penser bien sûr à la persécution. Imaginez tous ces enfants qui sont morts. Les enfants moins de 2 ans, ils ont été exécutés par le roi Hérode. Et puis non seulement à Jérusalem, mais aussi à Bethléem, mais aussi aux alentours aussi. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Imaginons la tristesse, les familles endeuillées à cause de cela. Nous, de nos jours, nous étions tellement tristes. Il y a quelques semaines, en apprenant la nouvelle des 6 enfants qui sont morts avec cet accident de voiture, de bus, il y a encore des enfants qui sont hospitalisés, gravement malades. Nous les compatissons. Mais là, c'est encore plus grave. C'est tous les enfants qui étaient décédés, tués. Le roi Hérode a commis des meurtres lorsque Jésus est arrivé, à cause de Jésus. C'est vrai que l'arrivée de Jésus peut être une nouvelle réjouissante pour certains, comme par exemple Siméon qui a tant attendu et il a remercié le Seigneur en apprenant qu'il était là. Il a vu de ses propres yeux, il l'a remercié. De même Anne, qui a prêché malgré sa vieillesse. Elle avait 84 ans, mais elle prêchait, cette femme pieuse, de cet enfant qui est né. Et puis, bien sûr, j'en parle même pas, les anges qui ont loué le Seigneur de cette arrivée de l'enfant. Mais pour d'autres, c'était la souffrance. Ils ont perdu leurs enfants, leurs nièces, leurs neveux. C'était quelque chose de tragique. Alors, oui, dans Jean 16:33, il est dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu le monde. En fait, pourquoi je dis, enfin, là, en fait, ce matin, je me suis dit, je vais prêcher court, hein, puisqu'il y aura pas mal de choses qui vont être dites. Alors, j'ai écrit quelques mots, mais en fait, je suis perdu dans mes notes. C'est pas grave. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réalité de la persécution pour celui qui veut obéir à Dieu. En effet, à plusieurs reprises, Jésus a enseigné à ses disciples qu'il serait haï de tous à cause de son nom. Et c'est encore valable aujourd'hui. À cause de son nom, beaucoup de chrétiens sont persécutés. Nous avons vu tout à l'heure, entendu le témoignage de tous ces chrétiens. D'ailleurs, le christianisme, c'est la première religion qui est la plus persécutée dans le monde. Jésus a enseigné à ses disciples qu'il serait, oui, effectivement, haï de tous à cause de son nom. Et donc, Jésus nous exhorte à considérer ce fait non seulement comme normal pour notre vie, mais à l'accepter comme un privilège et un sujet de joie, sachant que lui-même a subi aussi le même sort sur la croix. Notre Seigneur Jésus, durant sa vie, a plusieurs fois échappé à la mort. Hein? Non seulement, déjà à l'enfant, il a été persécuté et menacé de mort, mais quand il a grandi et que quand il a commencé son ministère, il a été persécuté aussi, plusieurs fois échappé à la mort. Et on s'est moqué de lui, pour finalement être abandonné de tous et finir sa vie sur la croix. Au travers de sa vie, on apprend que la persécution fait partie des conditions de vie du chrétien. Bien sûr, il ne faut pas chercher la persécution. Hein. On sait très bien, par exemple, en Corée du Nord, si on découvre que vous êtes chrétien, vous serez envoyé dans un camp de concentration. Donc, devant cette nouvelle, vous n'allez pas vous dire, vous n'allez pas vous présenter devant les autorités, « Je suis chrétien !» pour être persécuté. Non, on ne cherche pas la persécution. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais on subit parfois des persécutions à cause de notre foi, à cause de notre obéissance à la parole de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on cherche la persécution, cependant, celui qui mène une vie pieuse ne peut pas être étranger à cette persécution parce que dans le monde, une vie pieuse révèle l'impiété des autres. Le monde d'aujourd'hui est contre Jésus, contre ceux qui suivent Jésus. J'aimerais, si tu peux afficher tout à l'heure, Hébreux 10, 32-34. Il doit y avoir un verset. J'aimerais vous relire. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. J'aimerais donner un petit exemple de Paul. Paul, vous savez qu'il était persécuteur de l'Église. D'ailleurs, il était membre du Sanhédrin, probablement. Et puis, lors de la lapidation d'Étienne, Il était là pour approuver le meurtre d'un innocent. Son zèle, entre guillemets, pour Dieu, était tel qu'il avait vraiment demandé aussi aux sacrificateurs, aux principaux sacrificateurs, le pouvoir de mettre en prison les chrétiens. À ce moment-là, il a vraiment cru agir bien pour Dieu. Mais un événement unique, décisif, arrive, c'est-à-dire il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Et ensuite, après cette rencontre, il devient, lui qui a été persécuteur, devient persécuté. D'ailleurs, on décrit bien comment il a été persécuté dans 2 Corinthiens 11. Il est écrit, « J'ai été en prison bien plus fréquemment, frappé beaucoup plus et en danger de mort plus souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. 3 fois, j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. Et une fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai été naufragé. Et une fois, je suis resté un jour et une nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands, les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger parmi les faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil, j'ai eu faim et soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner, j'ai souffert du froid et du manque de vêtements. » Voilà l'homme, Paul, qui a écrit 13 livres dans le Nouveau Testament. On pourrait se dire, lui qui a réalisé tellement de miracles, il aurait pu avoir une vie un peu plus en abondance. Oui, il a été souvent, parfois en abondance, mais aussi beaucoup de fois, il était dans la misère. Non seulement il a été accueilli à bras ouverts par les frères chrétiens, mais souvent il a été persécuté. Et cette persécution de l'époque de l'Église primitive est toujours là, n'a pas disparu. Et il y a plusieurs formes de persécution. On peut voir, par exemple, les attaques publiques par les accusations mensongères et les diffamations. Par exemple, à l'époque de l'Église primitive, il y avait une persécution où les chrétiens étaient mis en spectacle dans les jeux de cirque. Vous connaissez l'empereur Néron, qui a persécuté l'Église primitive. Pourquoi d'ailleurs? Vous savez ça? Non? Il faisait pour faire payer les impôts. Il y a ça aussi, mais surtout parce que il était en mauvaise posture. Il avait fait brûler surtout Rome et qu'il s'est dit, si les gens savaient que c'était lui qui avait fait brûler Rome, les gens allaient justement lui demander compte. Il s'est dit, on va trouver un bouc émissaire. Les chrétiens, une secte juive, ça c'est une très bonne proie. C'est pour ça qu'ils ont commencé à persécuter les chrétiens. Donc il a ordonné que les chrétiens soient jetés aux lions dans les arènes. Alors que d'autres étaient d'autres chrétiens étaient crucifiés, ou encore un grand nombre de personnes étaient brûlées vives. Tout ça, c'était la vie quotidienne des chrétiens du premier siècle. Sous Néron aussi, mais aussi, pas seulement sous Néron. Par la suite aussi, on a connu beaucoup de chrétiens qui ont été persécutés. Et puis, je n'en parle même pas de nos jours aussi. On a l'impression que nous vivons en France, donc il y a la paix, etc. Non, il n'y a pas la paix. Dans d'autres pays où la charia, la loi islamique est pratiquée, les chrétiens doivent vivre cachés, ou cacher en tout cas leur foi. Par exemple, un jeune homme en Indonésie a choisi de suivre Jésus. Lorsqu'elle parle à ses parents de sa conversion, elle est chassée de la maison et du village. En plus de ce terrible rejet, les parents, ses propres parents, font courir la rumeur comme quoi elle est devenue prostituée. Vous vous rendez compte? Elle a, les parents, à cause de sa foi, comment ils se comportent? Comment ils disent? Ils disent des accusations mensongères, des diffamations. Encore un autre exemple, en Inde, deux sœurs qui s'appellent Meena et Sunita, donc ça se passe de nos jours, ont dû fuir leur village après leur conversion, parce qu'elles ont été battues par les villageois qui les ont menacées de les tuer. On voit vraiment que cette persécution est quotidienne dans certains pays. Heureusement, en France, on n'a pas ce genre de persécution. Comme disait Rachida, oui, nous sommes battus pour avoir cette liberté. D'ailleurs, vous savez que en fêtant les 500 ans du protestantisme, vous savez que la laïcité, ça vient de qui, en fait, d'ailleurs? C'est qui a créé la laïcité? Comment? Voilà. Tout d'abord, ce sont les protestants qui ont réclamé haut et fort la laïcité pour avoir la liberté de croire ou ne pas croire. À l'époque, tout le monde devait croire le catholicisme. Hein? Et les protestants n'avaient pas le droit. C'est pour ça que les protestants ont réclamé haut et fort la laïcité qui est, à la base, la liberté de croire ou ne pas croire. En tout cas, il y a eu toutes ces luttes pour que nous ayons cette paix maintenant. Certains comprennent bizarrement la laïcité, ça c'est, on peut même débattre là-dessus, mais à la base, c'est une bonne loi, c'est une bonne loi. Voilà, donc je disais qu'il y avait cette forme de persécution par les attaques publiques. Il y a encore d'autres formes de persécution qui existent, c'est-à-dire l'enlèvement de vos biens. Vous savez, quand on enlève vos biens, nos biens, parfois, là, on peut voir quelle est vraiment notre foi. Hein? Mais certaines personnes, déjà à l'époque de primitive, ont dû abandonner leurs biens pour suivre Jésus. Cela nous rappelle ce que vivent les chrétiens d'Iran. J'aimerais vous lire. Le gouvernement pratique une politique d'appauvrissement des chrétiens. Et ça se passe toujours maintenant. Ces derniers sont emprisonnés pour être ensuite relâchés sous caution. Donc tous ces chrétiens sont emprisonnés et puis s'ils veulent retrouver la liberté, ils doivent payer une caution, un montant requis par l'État, par les autorités, mais un montant exorbitant pour un pauvre chrétien. Et en tout cas, les autorités essaient de dépouiller les familles tout en enrichissant donc leur compte. On peut encore donner l'exemple des chrétiens d'Irak. Certains chrétiens d'Irak ont été chassés de leur village en 2014. Et en quelques heures, ils ont perdu toutes leurs possessions, maisons, biens personnels, fermes, ateliers, outils de travail, etc. Parce qu'en fait, ils devaient fuir devant le groupe d'État islamique. Voilà, ça c'est la réalité de ce qui se passe ailleurs qu'en France. Il y a trois... Heureusement, nous n'avons pas ce genre de choses en France. Hein? Mais ça, voilà, dans d'autres pays, dans d'autres endroits sur cette terre, il y a tellement de chrétiens qui sont persécutés. Troisième forme de persécution, il y a la discrimination économique. Vous savez, par exemple, au Pakistan, les chrétiens sont enfermés dans les quartiers ghettos et assignés aux métiers les moins valorisants. D'ailleurs, vous savez, c'est à Pakistan où est pratiquée la charia, la loi islamique. Hein? Donc tout est codifié à partir du Coran, hein? À partir des interprétations du Coran. Ils essaient de mettre en place une loi à partir du Coran. Du coup, les chrétiens n'ont pas de place. Vous voulez trouver un travail si vous êtes en étant chrétien? Impossible. Impossible. Parce qu'il y a dans une feuille où vous devez marquer, il y a, si vous êtes chrétien ou pas, il faut marquer ça. Si vous êtes chrétien, vous n'aurez jamais un travail. C'est très très difficile, c'est une condition de vie très difficile. Voilà. Il y a un grand combat en étant chrétien au milieu des souffrances. D'ailleurs, Paul dit ceci dans 2 Timothée 4, 7, vers la fin de sa vie. Après avoir vécu toutes ces persécutions, il a dit, J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ça veut dire quoi? La persécution peut nous toucher. C'est pas rien, parce que ça nous touche personnellement. Mais il confesse que oui, il a combattu le bon combat pour justement proclamer l'évangile qui sauve l'humanité. Il a achevé la course. Cette course était difficile, mais il a persévéré, il a achevé la course et il a gardé aussi la foi. Nous avons besoin vraiment d'être encouragés par le Seigneur pour cela. Nous qui sommes loin, qui ne connaissons pas forcément la persécution comme ces chrétiens qui vivent en Irak, en Pakistan, en Irak, en Iran, ben nous pouvons bien sûr prier pour eux. Nous pouvons intercéder. Le Seigneur a dit, portez les fardeaux ensemble les uns les autres, et c'est comme ça que nous accomplirons la loi du Christ, hein, d'après Galates 6. Nous pouvons porter les fardeaux. Nous ne pouvons pas forcément aider concrètement parce que nous ne savons pas, mais il y a Portes Ouvertes qui propose pas mal de solutions, pas mal de moyens. Ils ont besoin aussi de finances. Nous pouvons bien sûr aider financièrement, mais aussi nous pouvons surtout prier. Prier pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et puis enfin, n'oublions pas que ces chrétiens persécutés eux-mêmes prient pour nous. Vous savez qu'on a l'impression que nous avons la richesse, donc on doit prier pour eux. Mais eux-mêmes qui sont persécutés, ils prient pour nous. Vous savez ça? Ils se disent, ah ben là, nos frères et sœurs qui sont en France ou dans des pays développés, ben ils sont corrompus par l'argent, donc il faut prier aussi pour eux. Bon, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ils prient. En tout cas, ce qui est bien, c'est que nous pouvons prier pour eux, de même, eux, ils prient pour nous. Il y a une certaine solidarité qui est exprimée dans les deux sens. D'ailleurs, les chrétiens d'Asie et d'autres pays, même de Corée du Nord, le pays où les chrétiens sont les plus persécutés, ont fait savoir à Portes Ouvertes que ces chrétiens, donc de Corée du Nord, les Coréens, eh oui, ils ont fait savoir qu'ils priaient pour la France, pour l'Angleterre, lors des attentats terroristes. Nous sommes ses disciples et nous sommes aussi appelés à le suivre. Voilà, que le Seigneur nous fasse réfléchir pour cette forme de persécution qui existe. Et puis, voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire aussi pour mes frères, mes sœurs qui souffrent, que nous avons vus ce matin à travers leurs témoignages. Que le Seigneur nous donne un bon discernement pour pouvoir aider, s'entraider les uns les autres. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, la persécution existe depuis toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et déjà, même depuis la création, les hommes ont été persécutés par le diable. C'est vrai parce qu'il y a un combat à mener dans ce monde. Et surtout, lorsque Jésus est venu sur cette terre, le diable a tout fait pour le faire périr. Et finalement, il croyait être vainqueur, mais sur la croix, en tuant Jésus sur la croix, mais en fait, c'est le contraire qui s'est produit. Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité, troisième jour. Et Jésus est monté au ciel et il redescendra. Il reviendra, Seigneur. Ce Seigneur qui a tout accompli pour notre salut. Seigneur, nous avons cette espérance vivante en toi. Et nous voulons vraiment te prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Nous ne savons pas tout ce qui se passe dans le monde. Mais rien qu'avec quelques histoires, nous sommes attristés de voir ces frères et sœurs qui sont persécutés physiquement, moralement. Mais je sais que avec leur foi inébranlable, ils auront, et aussi avec leur espérance, ils peuvent avoir cette joie immense. Comme Paul l'a été en prison, il a chanté, loué le Seigneur, et tu l'as délivré. Et je te prie aussi pour tous ces chrétiens qui sont peut-être emprisonnés ou en difficulté, que tu puisses aussi ouvrir des portes, ouvrir des chemins pour eux, Seigneur. Que nous puissions porter aussi les fardeaux tous ensemble pour accomplir la loi du Christ. Merci encore pour ta présence avec nous ce matin. Que vraiment l'Église universelle puisse être solidaire entre elle, mais aussi avec toi, Seigneur. Que tu nous inspires aussi. Jésus, tu as montré l'exemple. Aide-nous vraiment à te suivre aussi. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.